Vous écoutez RTL.
Les curieux, Thomas et Sidonie sont là, fidèles au poste.
Mais oui, Stéphane, ça va bien?
Bien, et vous?
Pleine forme, mais oui, on a de l'astronomie au menu de notre émission. Depuis quand les humains ont-ils compris les étoiles, le soleil, la lune, comment ça marche? Quelles légendes ont-ils inventées, justement, pour expliquer ce qui était profondément mystérieux? Imaginez, il y a un ou deux millénaires, comment on pouvait comprendre ça? On lève les yeux au ciel vers 14h30 sur RTL.
Et tout de suite, les bébés de l'histoire dans la curiosité.
La curiosité est un vilain défaut.
Bébé d'or,
papa, bébé bonheur.
RTL.
Comme bébé, comme la vie.
Elle a fait un bébé tout seul.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Salut, bonjour les curieux, c'est parti pour une heure d'histoire, d'anecdotes, de surprises, de mises en onde délicieuses et toujours de joie avec Thomas.
Salut Sidonie.
Vous avez vu, c'est une belle rime.
Oh oui, j'adore.
Elle est très simple, mais elle est efficace.
Elle est riche, je ne sais pas, joie Thomas, c'est pas tout à fait une rime riche, mais ça fait plaisir en tout cas, ça va?
Très bien.
Pleine forme, mais oui, ça va bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous, on aime, vous le savez, causer science, musique, grand destin, nature, espace, vie quotidienne, entre autres, vie quotidienne aujourd'hui, des grands. Et donc des petits.
Et oui, on se passionne pour les bébés, les marmots. Comment étaient-ils perçus dans l'histoire? Ça, c'est une question qu'on ne s'était jamais posée. Aujourd'hui, on les dit rois, on les choix, on essaye même de comprendre leur état d'âme. Mais avant, c'était comment? Bonjour Éric Pincas.
Bonjour.
Salut Éric, ça va bien?
On est
ravis
de vous retrouver au micro de la curiosité. Vous êtes le rédacteur en chef du magazine Historia et vous consacrez un dossier assez bout de chou. Si l'on remonte à l'Antiquité, parce que c'est vraiment intéressant de repartir très loin avec vous, comment le bébé est-il perçu? Est-ce déjà un trésor? Un don.
Bah, j'ai envie de dire que déjà vous avez oublié une musique pour introduire l'émission, ça aurait été dur d'être un bébé.
Ah ben, hein, vous inquiétez pas.
Voilà. Attendez, Sébastien Dudu, notre réalisateur, l'a prévu, mais c'est pas pour tout de suite.
Ça viendra.
Oui, parce que dans l'Antiquité, évidemment, avoir un enfant, c'est toujours un don du ciel, quelque part. C'est toujours, si on remonte même avant l'Antiquité, dans la préhistoire, on a des premières tombes, des premières sépultures de bébés qui datent de 40 000 ans. Au Moustier, en France, par exemple, on a une sépulture d'enfants.
Donc, ça veut dire qu'on en prenait soin?
Oui, ça veut dire qu'on en prenait soin et que le bébé était d'une certaine manière sacralisé, qu'il avait sans doute un rôle, une place dans le groupe qui n'était pas ordinaire. Dans l'Antiquité, ça va se compliquer un peu pour l'enfant, notamment chez nos amis grecs et notamment chez les Spartiates, où on est dans une société où là, il s'agit d'éduquer l'enfant de manière militaire. Et donc, lorsque le bébé naît, il est soumis à une batterie d'examens. Et si on juge qu'il n'est pas apte, qu'il n'est pas suffisamment de constitution solide, s'il est trop chétif et pas apte à devenir un futur soldat, eh bien, il lui arrive bien des misères.
Mais alors, c'est quoi cet examen? C'est une sorte de collège d'adultes, voire de vieillards, c'est ça?
On est dans un régime qu'on appelle la gérontocratie. Hein. C'est un collège de vieillards qui gère la cité de Sparte. Et l'enfant est un peu la propriété de la cité avant d'être la propriété de ses parents. Et Dolto dirait d'ailleurs que le bébé n'est la propriété de personne, si ce n'est de lui-même.
C'était quelques siècles plus tard.
Ça a pris du temps.
Mais en tout cas, chez les Spartiates, voilà, c'est ce collège de vieillards qui juge de l'aptitude du bébé à vivre.
Et même presque de ses prédispositions militaires, c'est ça l'objectif?
Oui,
c'est d'en faire un soldat.
De sa constitution physique, ouais, qui va le conduire plus tard à défendre Sparte à une époque où les guerres entre cité et État sont nombreuses.
Ce
dans
qui
la
m'inquiète, c'est qu'est-ce qu'on en faisait, Éric Pincas, de ses enfants? Alors, s'ils étaient aptes à la vie militaire, qu'est-ce qui leur arrivait? Et si, au contraire, ils
n'étaient
pas...
Alors déjà, s'ils ne sont pas aptes,
ouais,
s'ils sont
alors,
pas aptes, et ben, très simplement, on les emmène au sommet d'une colline et on les jette dans un gouffre qui s'appelait le gouffre des Apothètes. Et donc voilà, on les jetait ou on les noyait. Donc c'était absolument terrible.
Ça c'est pour les garçons bien sûr, parce que les filles...
Alors les filles, c'était considéré comme un fardeau là aussi, parce qu'un fardeau économique, pardonnez-moi Sidonie, un fardeau économique, parce que avoir une fille, c'est générer, engager 15% de la fortune du père lorsqu'il s'agit de la marier.
Donc, il y avait une dot.
Il y avait une dot. D'accord. Donc forcément, ça peut créer un souci. Et lorsqu'on les tue pas, on les expose.
Ça veut dire quoi ça?
Alors les exposer, en fin de compte, d'une certaine manière, c'est un peu synonyme d'abandon. Ça veut dire qu'on les abandonne à une mort lente. Alors, dans certains cas, on les abandonne dans des lieux publics où ils sont susceptibles d'être recueillis. Mais c'est pas toujours le cas. Donc l'exposition est quelque chose de socialement toléré dans la Grèce antique, parce qu'on a peur aussi, lorsque les bébés sont de mauvaise constitution, lorsqu'ils sont mal formés par exemple, on a peur que cette malformation contamine le corps social, qu'il y a une forme de contagion qui va gagner le corps social. Et ça, c'est absolument prohibé chez les Spartiates.
Est-ce que dans l'Antiquité, chez les Grecs ou les Carthaginois, je sais pas, ou les Romains, l'infanticide est autorisé?
Oui, il est autorisé. Il n'est pas considéré comme tabou dans nos sociétés
donc
actuelles. C'est quelque chose d'absolument inacceptable.
Les parents ont un droit de vie et de mort sur leurs enfants.
Le pater familias, à Rome, a droit de vie et de mort sur son enfant, que ce soit un garçon ou une fille. Il est tout puissant. On juge effectivement de cette aptitude à vivre ou pas de son enfant. Donc c'est quelque chose aujourd'hui qui nous paraît complètement dingue. Il faut attendre le 4e siècle. Il faut attendre le 4e siècle et que l'Église entre en jeu pour que l'infanticide devienne quelque chose de condamné, de condamnable et de considéré comme crime monstrueux.
Alors ces enfants, s'ils survivaient, et heureusement de nombreux bébés ont survécu, comment les lavait-on dans l'histoire? Un bain, deux bains, pas de bain du tout? Réponse tout de suite les curieux sur
odeur garantie.
Marc-Olivier Fogiel, on refait le monde dans RTL Soir.
Vous en avez assez des donneurs de leçons, vous ne supportez plus les polémiques creuses. Mais avez-vous déjà écouté On refait le monde, l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre? Sur RTL, des points de vue tranchés et argumentés, des échanges vifs et toujours surprenants, des grandes signatures venues de tous les horizons, mais aussi de la bonne humeur et des surprises. C'est tous les soirs de 19h à 20h sur RTL.
C'est dur, dur être bébé.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Voilà, notre invité Eric Pagas est content.
Je suis ravi.
On subit dur dur d'être bébé, le tube de Jordi, puisqu'on raconte l'histoire des bébés dans la curiosité, considéré comme un animal, évalué dès les premiers pas, vous l'avez entendu, pour savoir s'il sera un bon guerrier. Ce bout de chou a fait du chemin jusqu'à nous. Eric Pagas, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du magazine Historia. On va parler d'hygiène, de propreté et donc d'usage de l'eau avec les bébés. Et du coup, je me demande, le baptême, est-ce que le baptême était obligatoire? Est-ce qu'il fallait forcément baptiser les bébés?
Je dirais que le baptême, il était même vital. À partir du 4e siècle, il est impensable d'enterrer un enfant mort-né sans qu'il ait été baptisé. Alors comment faire? Il existe des... Parce que évidemment, l'enfant, à partir du moment où on considère qu'il a une âme, et l'Église considère qu'il a une âme à partir de la 6e semaine qui suit la conception, eh bien, il est pécheur. Il est pécheur, comme tous les êtres humains, il est censé devoir expier ses péchés, et le baptême va l'y aider, et pour pouvoir gagner le paradis. Lorsqu'il n'est pas baptisé, on pratique l'ondoiement in utero. Quand on sent que l'accouchement se passe très mal, et que le bébé risque d'arriver, malheureusement, en piteux état, eh bien, il y a des petites seringues, avec une petite croix au bout, la croix du Christ, et on baptise
dans l'utérus.
Ouais. Et on va même encore plus loin. On va créer au XIIIe siècle ce qu'on appelle des sanctuaires à répit. Les sanctuaires à répit, c'est parce qu'on croit très fort au fait que le bébé peut ressusciter, ne serait-ce qu'un instant, pour qu'on puisse le baptiser. Alors, on l'emmène dans ces sanctuaires. Il y en a un à Reims, par exemple, où on va prier toute la nuit la Vierge, les dieux, les saints. Mmh. Et au moindre clignement d'œil, on le baptise. Pourquoi? Parce que évidemment, à l'époque, on ne le sait pas, mais lorsque le bébé vient à mourir, dans les heures qui suivent la mort, il peut y avoir encore des petits mouvements dus à la digestion, des choses comme ça, qui font qu'il y a des petits frémissements dans le corps. Donc on se dit, ça y est, il a ressuscité, on le baptise, et il peut gagner le limbe pour enfants, puisque c'est ce lieu qu'on a créé, ce genre de purgatoire en bordure de l'enfer et du paradis, où le bébé va pouvoir avoir, je dirais, la plus douce des peines.
Mais Eric Pagas, cette obligation du baptême, ça a duré jusqu'à quand
Alors ce qui est complètement dingue, c'est qu'il faut attendre 2007 pour que le limbe pour enfants soit supprimé, que la commission de théologie internationale revienne sur ce limbe pour enfants et qu'on se dise que le Seigneur, Dieu, a le cœur assez grand, sa miséricorde est suffisamment puissante pour pouvoir pardonner les bébés qui ont péché sans être baptisés.
Eric Pagas, on découvre dans votre magazine Historia que l'Église a un drôle de rapport avec l'eau dans l'histoire et notamment au Moyen-Âge. Qu'est-ce qu'elle représente cette eau? Est-ce qu'on a le droit de se laver quand on est chrétien?
Oui, on a le droit de se laver, et souvent au Moyen-Âge, on va dans les bains publics. Sauf qu'à un moment donné, l'Église dit stop, parce que les bains publics au Moyen-Âge, c'est un peu un lieu de débauche, hein, c'est un peu le lieu de toutes les fornications, et on trouve aussi beaucoup de prostitution dans les bains publics, donc on dit stop. Mais au-delà de ça, au-delà de la considération morale, il y a une considération médicale qui va vite arriver, qui va vite poser problème. Pourquoi? Parce qu'au XIVe siècle, avec la peste noire, eh bien, on considère que l'eau est porteuse de maladies. Et du coup, on se met à ne plus laver les bébés. Et là, c'est absolument terrible. On a des bébés qui prennent leur premier bain pas avant leur 7e année. C'est le cas d'un bébé royal, par exemple.
Ah bah oui, c'est Louis XIII, vous racontez son histoire. Il y a même le diagnostic de son médecin que vous reproduisez dans votre magazine. Vous pouvez nous le lire ?
Tout à fait. Alors, son médecin, Jean Héroard, il note scrupuleusement qu'il relève de la crasse au front entre les deux sourcils de Louis XIII, qu'il a une grosse gale autour de la tête et une enflure échassie à la paupière. Il ne s'est pas baigné, on ne l'a pas baigné avant l'âge de 7 ans. On ne l'a pas peigné avant ses 1 an. Il avait la tête infestée de poux.
Bah oui, on l'imagine. Mais il était quand même nettoyé d'une certaine façon. Avec quoi on le lavait ou on nettoyait ?
Alors, je ne sais pas si c'était très efficace. Ce n'était pas encore l'époque du savon, du bébé cadom. On nettoyait les enfants royaux, par exemple, avec de l'huile d'amande douce ou carrément avec du beurre. Alors, on utilisait aussi pardon.
N'essayez pas, Thomas.
Bonjour les odeurs.
On utilisait aussi de l'huile d'olive, par exemple, pour nettoyer les yeux, pour nettoyer
mais
le nez.
Ça veut dire qu'on prêtait, à cette époque, on prêtait des vertus à la crasse, à l'urine, à tout ça. On pensait que ça préservait l'enfant ?
Exactement. On pensait que la crasse avait des vertus protectrices, qu'elle forgeait une carapace qui protégeait, par exemple, la tête de l'enfant, notamment la fontanelle, et que grâce à cette carapace qui recouvrait la fontanelle, eh bien, l'enfant allait pouvoir se développer correctement. L'urine avait des vertus désinfectantes. Au lieu de passer un joli petit lait sur les fesses de nos bambins, on passait de l'urine sur leurs fesses, mais on ne lavait pas leur linge, on nettoyait aussi leurs fesses avec de la poussière de bois. Donc ce sont des techniques très rudimentaires, très rustiques, et effectivement la mortalité infantile dans des conditions d'hygiène aussi terribles était absolument terrible, absolument féroce.
La crasse qui n'était pas la seule chose à supporter par les bébés au Moyen-Âge. Il y avait aussi l'emmaillotement et puis ces biberons en corne d'animal avec microbes intégrés forcément.
Ah,
tout de suite sur RTL.
L'histoire des bébés ou la difficile vie des nouveau-nés, c'est ce qu'on vous raconte avec le rédacteur en chef du magazine Historia, Eric Pincas. On va évoquer ce dont parlait Thomas tout à l'heure, l'emmaillotement. C'est une pratique qui est revenue aujourd'hui à la mode depuis quelques années en Europe. Il s'agit d'enserrer un enfant dans un linge, ce qui permet dans les tout premiers jours, ce qui permet en fait de le rassurer, de le contenir. Mais cette pratique, elle n'avait pas du tout la même fonction chez les Romains, et c'est ça qui est très intéressant. Comment déjà ils emmaillotaient leur bébé ?
Alors, ils l'emmaillotaient comme une momie, c'est-à-dire qu'on emmaillotait, on bandelait les bras, les jambes séparément pour éviter les ulcérations, la poitrine, enfin vraiment, jusqu'au cou, l'enfant était complètement privé
de
mobilité.
Parce qu'aujourd'hui, on le fait pendant
des heures. Effectivement, Sidonie, vous l'avez dit, aujourd'hui, en Angleterre ou aux États-Unis, en France, on se dit que l'emmaillotement peut être susceptible de favoriser l'endormissement du nourrisson. Bon, ouais. Chacun y verra ce qu'il a envie d'y voir.
Moi, j'ai essayé, ça marche.
Mais en tout cas, à l'époque romaine, c'est quand même assez rude.
Oui, parce que c'est pas doux, quoi. Ils compressent certaines parties du corps, c'est ça.
Déjà, bon, ça peut générer des problèmes de digestion, ça peut générer des problèmes de transpiration, ça peut provoquer des problèmes de respiration. Et pourtant, on se dit qu'il faut absolument emmailloter. Pourquoi ? Parce que c'est une manière de ramener le bébé à l'humanité, le tirer de l'animalité. Parce que le corps du bébé, on se dit que c'est un corps malléable, comme de la cire, et que si jamais on ne l'emmaillote pas, eh bien, il va continuer à marcher à quatre pattes toute sa vie, comme un animal, et que jamais il arrivera à se redresser. Donc on a même placé parfois des anneaux sur le thorax du bébé pour pouvoir le suspendre. Alors,
c'est plus simple pour l'attraper. Hein.
Voilà, c'est ça.
Comme un petit panier.
On le rangeait comme ça pendant la journée. On pouvait aller vaquer à ses occupations à la ferme. Non, mais c'est vrai en plus. Hein, c'est réel. Ouais. Et puis, il y avait aussi parfois des explications médicales. Le suspendre, le laisser de manière verticale comme ça, ça permettait de pouvoir mieux digérer pour qu'il régurgite moins.
Bon, voilà. D'accord. Mais ça durait combien de temps, Éric Pincas, cet emmaillotement des bébés ?
Alors, selon Soranos d'Éphèse, un des grands penseurs, théoriciens, médecins grecs, il fallait enlever l'emmaillotement, les bandelettes, au 40e jour. Comme un cocon, comme un papillon qui sortirait de sa chrysalide.
Et on commençait par libérer un membre, par exemple ?
Oui.
oui. en particulier des jambes,
alors,
des
il fallait
bras.
Faire très attention, il fallait, chez les Romains en tout cas, on commençait à débander l'été et à libérer le bras droit en premier.
Ah bon,
pourquoi? Parce
ouais.
que si on libérait le bras gauche, c'était vraiment de très mauvais augure. Il y avait une forme de superstition, être gaucher n'avait pas bonne presse. Et du coup, il fallait absolument libérer le bras droit en premier en espérant que ça suffirait à ce que le bébé soit droitier.
En fait, le sous-titre de cette émission, ça pourrait être « Vive le progrès ». On va le voir ici avec le biberon, le premier biberon. Est-ce qu'on sait quand il apparaît?
On situe les premiers biberons à l'époque gallo-romaine. On a retrouvé dans des tombes, dans des sépultures, des biberons. On ne sait pas vraiment s'ils avaient, en fin de compte, l'utilité qu'on en a aujourd'hui. C'était des récipients en céramique ou en verre. Et on sait que ça pouvait permettre au bébé de boire. On pouvait aussi lui donner de la bouillie au moment où le sevrage était très précoce. Mais il y a des archéologues qui font ce qu'on appelle de l'archéologie expérimentale qui ont testé ça aujourd'hui sur des mamans. Et en posant ces récipients sur la poitrine de la maman qui vient d'accoucher, ils se sont aperçus que ça pouvait aussi servir de tire-lait et que ça fonctionnait très bien comme tire-lait.
Oh bah pourquoi pas? Mais alors le tout premier biberon qui ressemble à celui qu'on utilise aujourd'hui, il apparaît au
Moyen-Âge. Au 9e siècle.
Il ressemble à quoi? Il est fait comment?
Alors il est fait au 9e siècle, c'est plutôt des cornes soit de chèvre, soit de vache. Oui.
C'est un peu dur à téter quand même.
Oui, alors au bout de la corne, on mettait des petits embouts, soit en liège, soit en bois, soit en ivoire, soit juste un petit bout de tissu pour déjà que ça fasse pas mal au bébé, et puis pour ralentir la succion. Parce que sinon l'absorption du liquide risquait d'être trop rapide et on risquait des étouffements. Donc on mettait un petit bout voilà, qui permettait de ralentir le passage du liquide dans l'embout.
Mais il y avait aussi un risque d'hygiène.
Énorme.
Bactérique, bactériologique, bactérien, merci.
Ouais. C'est joli, bactérique.
Ouais, des fois j'invente des mots, ça dépend du nombre d'heures de sommeil.
Vous n'avez pas eu votre biberon, vous, ce matin.
Oui,
bref,
oui, oui.
Bactérien.
Bactérien, on va partir sur bactérien.
Voilà.
Bah oui, parce qu'effectivement, l'asepsie, les règles d'antisepsie, etc., il faut attendre Pasteur, les années 1880. Mm-hmm. Donc là, on donne du lait. Alors déjà, on prend le biberon quand soit le bébé est trop faible pour pouvoir téter sa maman, lorsqu'il est prématuré. Ça, c'est quand même une des causes premières. Et effectivement, le lait stagnant, c'est du lait cru, il n'est pas bouilli, il n'y a pas de stérilité. Tous les microbes, c'est vraiment des nids à microbes. Donc, il y a des épidémies de gastro-entérite terribles. Il y a des bébés qui meurent parce qu'ils s'intoxiquent avec le lait qu'ils ingèrent. Donc, c'est vraiment une révolution au 19e.
Et alors, quand les bébés se sont-ils mis à jouer? Quel était le tout premier
enfin
jeu
du bonheur.
Réponse dans un instant sur RTL. Et puis, dans la seconde partie de l'émission, on vous dévoilera l'histoire de l'astronomie. On aura la tête dans les étoiles.
La curiosité est un vilain défaut.
Prendre un enfant par la main.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnet.
Je suis un bébé requin.
Tout bleu que velours, ma bébé sang. Ma bébé sang.
RTL.
Bienvenue sur RTL, les curieux.
Dur d'être un bébé à certaines époques de l'histoire, c'est ce qu'on apprend avec vous, Éric Pincas. Vous êtes le rédacteur en chef du magazine Historia qui consacre un dossier à ce sujet. On a vu une enfance quand même assez difficile. Dans l'Antiquité, ces bébés étaient jugés par un collectif de vieillards qui décidaient s'ils étaient aptes à vivre et à combattre. Ils étaient parfois nourris avec du lait cru qui les rendait malades. Enfin bon. Et des histoires comme ça, il y en a beaucoup à lire d'ailleurs dans cet Historia qui est absolument passionnant sur le sujet. Mais on se dit quand même, est-ce qu'ils ont joué, ils ont été aimés, on sait quand même aussi ces bébés parfois, mais est-ce qu'ils ont joué et à quelle époque on s'est intéressé et on a essayé de développer leur et de leur apporter du jeu dans l'existence?
Alors, bien sûr qu'ils ont été aimés et bien sûr qu'on a jugé que le jeu très rapidement était quelque chose de fondamental dans l'éveil du petit enfant. Aristote, dès le 4e siècle avant Jésus-Christ, relève justement cette notion d'éveil, de découverte du monde à travers le jeu. Et on a retrouvé, là aussi, c'est souvent dans les sépultures hein, qu'on retrouve retrouve des petits objets. On a, par exemple, chez les Grecs, les Romains ou les Égyptiens, on a retrouvé des hochets. Alors, les hochets servaient évidemment à se faire les dents. Ils étaient faits en céramique ou en métal, un peu plus tard. Ils étaient remplis de petites billes d'argile, de petits cailloux ou de graines. Et l'enfant jouait avec. Ça, on en a retrouvé. On a retrouvé aussi des petites figurines, des poupées en bois, en os, en ivoire, des poupées articulées, des petits animaux en bois qu'on tirait avec une ficelle. Rien de vraiment neuf, hein, en fin de compte. On privilégiait aussi les jeux de hasard, les jeux d'adresse. Et surtout, ce qu'on constate, c'est que on faisait jouer l'enfant à des activités qui lui ouvraient son monde d'adulte, qui le projetaient vers son monde d'adulte. Chez les nobles, au Moyen-Âge, le petit garçon, évidemment, il joue à quoi? Il joue à l'épée de bois, au cheval-bâton, parce que c'est un futur guerrier, un futur chevalier. La fille, c'est très clivé, c'est très stéréotypé, mais on lui donne des petites dinettes en poterie, parce que il faut qu'elle s'initie aux tâches domestiques.
Mais heureusement que le temps passe et évolue. Merci beaucoup à lire le Historia de ce mois-ci, Eric Pincas, avec à la lune des bébés donc, et aussi ceux qui ont défié Hitler. Un numéro très émouvant à découvrir en kiosque.
Vous écoutez RTL.